Et on va tourner dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. On va continuer dans notre série à travers les Philippiens, l'épître aux Philippiens. L'épître de Philippiens au chapitre 3. On a partagé dans les deux dernières dimanches le témoignage de Paul. Donc Philippiens chapitre 3, s'il y en a qui veulent suivre, vous pouvez juste écouter attentivement. Philippiens chapitre 3, on va lire à partir du verset 12. 12 au 14, 12 à 14. Page 896, Philippiens chapitre 2, verset 12 à 14. Je vous invite à vous lever, on va se lever pour entendre la lecture de la parole de Dieu. Je fais cela de temps en temps pour souligner le fait que c'est la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la parole de Dieu, et ce qui est dit, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Dieu, avant que la Bible finisse, il pouvait parler par des songes ou par des anges, mais là, il a dit que ces choses-là étaient temporaires. Une fois que la Bible serait complète, que c'est maintenant à travers la Bible qu'il parle. Donc si on veut savoir qu'est-ce que Dieu a à nous dire, c'est la Bible qu'on doit ouvrir. Le Saint-Esprit nous parle comment? En nous faisant penser à ce qui est écrit. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous donne pas de nouvelles voies, de nouvelles révélations de Dieu. Le Saint-Esprit nous rappelle ce qui est écrit. Si on ne sait pas ce qui est écrit, le Saint-Esprit ne peut pas se servir de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, chapitre 3, versets 12 à 14, Paul dit ceci pour lui-même, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » On va prier. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour avoir utilisé l'apôtre Paul pour nous donner ce que tu voulais exactement qu'on sache. Et donc, on te prie que tu puisses nous aider à comprendre, aide-moi de bien expliquer, Seigneur Dieu, et on te prie de toucher le cœur de chacun par ta parole, la Bible, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Faites-vous asseoir. Courir vers l'avant. Quand David et Goliath se sont rencontrés, après que Goliath insulte David, mais surtout insulte le Dieu de David et le Dieu d'Israël, David a simplement dit, toi tu viens avec moi avec l'épée, le javelot, mais moi je viens contre toi, au nom du Dieu Tout-Puissant. Goliath s'est avancé en marchant. Savez-vous comment est-ce que David s'est approché de Goliath? Avez-vous remarqué le petit détail? David courut. Il avait hâte à la victoire, il savait que Dieu lui donnerait la victoire, il savait que lui, avec tous ses grands 9 pieds peut-être, il a peut-être 3 mètres de haut, je ne sais pas à peu près, mais qui était-il lui? Oh Dieu Tout-Puissant et Infini! Et Paul ici, il court, il a l'enthousiasme, il veut. La Bible parfois utilise l'aspect de la marche chrétienne au sens que c'est long, on a long à faire, on va marcher, parfois ça parle de courir, mais le point c'est que on veut avancer de tout notre cœur. Et Paul emploie ici l'aspect de courir pour faire ressortir sa motivation. Ce n'est pas à moitié qu'il est motivé d'avancer pour Christ. Il n'est pas du tout, il ne pense pas du tout qu'il a réussi à atteindre la perfection. L'apôtre Paul, lui-même, s'il n'a pas atteint la perfection, combien de nous, encore moins de nous. Donc, si on s'est converti, même depuis longtemps, on n'arrivera pas ici-bas à la perfection. Mon père s'est converti dans sa jeunesse. Mon père m'a élevé avec ma mère dans le Seigneur. Moi-même, j'ai dû me convertir parce qu'ils ne m'ont pas dit, parce que tu es né dans une famille chrétienne, tu es chrétien, on t'a baptisé quand tu étais bébé. Non, non, il n'y avait pas de ça. Je n'ai pas été baptisé quand j'étais un bébé. Mais j'ai appris tôt les vérités de la bonne nouvelle. J'ai appris tôt que moi aussi je devais me voir pécheur, que moi je devais voir que j'étais perdu. Moi j'étais sous la puissance de Satan. Moi j'étais esclave de mes péchés. À 5 ans j'avais déjà une conscience, hein? Et je me suis converti jeune, je suis reconnaissant au Seigneur. Mais vous savez, une des choses qui m'a beaucoup encouragé dernièrement de mon père, c'est que même avec ses 89 ans, c'était peut-être quand il avait 88 ans qu'il m'a dit ça, mais il dit vraiment, je continue à essayer de mémoriser sa parole, continue à mémoriser la parole de Dieu. Hein? Je sais un peu ce que c'est de commencer à perdre sa mémoire, hein? vous en témoignez là, que ma mémoire commence parfois défaillante un peu, mais après tant d'années, il n'a pas l'esprit que j'ai atteint la perfection, j'ai atteint le niveau, j'ai plus besoin d'apprendre la Bible, j'ai plus besoin de etc. Non, jusqu'au bout, il va continuer à mémoriser la parole de Dieu. Jusqu'au bout, il cherche à témoigner à leurs voisins, etc., lui et ma mère. Donc, Paul, c'est la même chose. Même s'il était apôtre depuis longtemps, il a encore du chemin à faire. Il a encore des choses à apprendre. L'apôtre Paul? Oui, l'apôtre Paul. Bien, combien plus nous? Moi, je me suis converti il y a 48 ans. Ben, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Alors, j'encourage, si vous vous êtes converti, n'ayez jamais l'idée que, ah, ok, là, c'est beau, là je peux commencer à ralentir. Non, gardez cette vision pour tâcher d'avancer et d'apprendre comment mieux servir le Seigneur, comment vous relever quand on chute, etc. Donc, Paul, lui-même, la cause, c'est pas que lui a saisi le Seigneur. Il sait que le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a saisi. Comme il dit, je tâche de saisir justement la perfection, mais il dit, c'est pas parce que je vais l'atteindre, mais je vais tâcher de le faire, mais il dit, puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Paul sait très bien que la seule raison pour qu'il est sauvé, c'est que Dieu l'a bien voulu. C'est Dieu qui l'a cherché. Lui, il était une brebis perdue. Le bon berger, il a cherché cette brebis perdue. Il est venu le chercher, lui, Paul. Il a été saisi par Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que Dieu veut de chacun, c'est de s'humilier à dire, « Ok, Dieu, moi, je suis perdu. Moi, je ne suis pas capable de même de... Mais sauve-moi. » Et ensuite, on réalise, c'est Dieu qui a eu pitié de nous. Il m'a été demandé, et c'est une question qui est revenue souvent, plusieurs personnes m'ont demandé avec le temps, Dieu dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors, est-ce que simplement on voudrait encourager les perdus à attendre que Dieu vous choisisse? De toute façon, si vous aurez choisi, ça aurait été depuis l'éternité derrière. L'éternité passée. Alors, si vous a choisi, il va vous sauver, vous n'avez rien à faire. Il va... Mais Dieu, j'ai répondu à la personne, si Dieu est souverain, il peut, en tant que souverain, dire, j'offre et il faut l'accepter, mon offre. Un souverain peut décider ce qu'il veut. Et c'est ce que Dieu a décidé. Dieu dit, je l'offre. Et ceux qui me refusent vont être coupables de m'avoir refusé. Il faut demander. Et c'est pour ça que Dieu, il ne mâche pas ses mots, il ne le dit pas pour jouer avec nous. Dieu ne joue pas à la cachette, Dieu ne nous dit pas des choses pour rien. Dieu dit que celui qui veuille prenne gratuitement l'eau de la vie. Viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Non, mais en même temps, il dit, il faut que je le veuille. Comment est-ce que les deux peuvent aller ensemble? Le Dieu souverain dit, il faut que je le décide. Mais je te le demande. Alors, c'est comme pour ceux qui sont encore à l'école. Je ne pense pas que vous vous faites simplement vous lever quand vous voulez pour partir aux toilettes. Puis je vais aller aux toilettes, monsieur, madame, la professeure ou la maîtresse. Hein? On demande. Puis la maîtresse dit, non, il reste juste 5 minutes, tu peux attendre, reste assis. Oui, tu peux y aller. C'est la maîtresse qui décide. Eh bien, Dieu, il... Alors, Paul a bien compris, ah, c'est Dieu qui m'a saisi, c'est Jésus-Christ qui m'a saisi, c'est dans sa grâce, c'est lui qui a dit oui. Est-ce que ça veut pas dire, ça veut dire que Paul ne l'a pas invoqué? Ah, Paul l'a invoqué. Et c'est dit dans la Bible que Paul l'a invoqué, parce que c'est Dieu, Jésus-Christ, vous vous rappelez, dans Actes, Jésus-Christ lui-même est apparu à Saul, il s'appelait Saul avant d'être appelé Paul, il est apparu à Saul sur le chemin de Damas. Mais le Seigneur Jésus ne lui a pas dit comment se convertir. Il a dit, tu iras à Damas et on te dira quoi faire. Et Dieu a envoyé Ananias pour lui donner la bonne nouvelle. Et c'est Ananias qui lui dit ceci spécifiquement. C'est Paul qui le dit quand il lui redonne son témoignage. Dans Actes 26... Au verset, c'est acte 22, pardon. Il redonne son témoignage aussi dans acte 26. Mais voici ce que Ananias lui a dit. Acte 22, 16. Il dit, après lui avoir dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Ça n'a pas converti Paul. Il fait juste lui dire ce que Dieu a choisi de lui. Ensuite, il lui dit, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Ananias lui dit, « Hey Paul, tu es perdu. Invoque le nom du Seigneur Jésus. Tu vas être lavé. Tu vas et fais-toi baptiser en témoignage d'accepter Jésus-Christ comme sauveur. » Il lui dit bien, sois lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. L'apôtre Paul sait qu'en invoquant le nom du Seigneur, il l'a invoqué, il dit, sauve-moi, je te demande. Mais il sait très bien que c'est Dieu qui devait dire oui. C'est Dieu le souverain. Et Dieu, dans sa grâce, a dit oui. Et Paul dit donc, c'est lui qui m'a saisi. C'est lui qui a apparu à moi, c'est lui qui m'a envoyé à Ananias pour me donner les détails, mais c'est lui qui a entendu mon cri de désespoir. C'est lui pour lequel j'ai renoncé à tout parce que je voulais trouver en lui, mais c'est lui qui a dû choisir. Le fait qu'il me choisisse, ça ne veut pas dire que moi je ne devais pas l'invoquer. Alors que veut dire ceci? Moi je vous encourage, si vous n'êtes pas encore venu à Jésus, invoquez-le pour votre salut. Après que vous l'avez invoqué, et après que vous avez la paix qui vous a entendu, vous allez savoir comme Paul, c'est lui qui vous a choisi, c'est lui qui vous a saisi. C'est lui qui, dans sa grâce, a dit, « Je ne vais pas t'endurcir dans tes péchés. Je vais avoir pitié de toi. Je vais te sauver. » Ah, donc, c'est de Dieu, par Dieu et pour Dieu que sont toutes choses, le salut incompris. En même temps, Dieu dit, « Personne ne sera en enfer qui ne sera pas responsable d'avoir rejeté Dieu. » Dieu est souverain et l'homme est responsable. On va toujours arriver à ces deux choses-là. Et justement, parce que Paul avait bien compris que Dieu est souverain, mais que l'homme est responsable, c'est pour ça qu'il n'a pas perdu sa motivation. Je cours! Je n'ai pas atteint la perfection. Je suis motivé. Je ne suis pas assis en train de dire, c'est de Dieu, par Dieu, pour Dieu. Alors, je suis comme un robot, alors je vais attendre. Et j'ai attendu qu'il me sauve, puis là, je vais attendre qu'il me bouge, puis j'ai Dieu... Non! Paul a compris. Dieu est souverain, puis l'homme est responsable. Alors, il y a les deux. Vous savez, ceux qui disent Dieu est souverain, souvent, ils se cachent derrière cela pour désobéir. Il y en a qui se cachent derrière ça pour ne pas se convertir. Oh, c'est terrible. Ensuite, ils blâment Dieu pour ne pas les avoir sauvés. Ah, oui, oui, oui. J'ai travaillé un jour avec quelqu'un, mon employeur. Il était sceptique, c'est de dire gentiment. Il dit, Judas, lui, il n'avait pas le choix. Il faisait tourner Dieu le mauvais parce qu'il n'avait pas fait ce que pour Judas, ce qu'il avait fait pour les autres apôtres. Et Judas, c'était de la faute de Dieu, en fin de compte, que Judas était un traître, quelqu'un qui avait joué un jeu d'être disciple, de dire qu'il avait cru, mais il n'avait vraiment pas cru, etc. Puis cet homme retournait la situation pour dire, c'est de la faute à Dieu. Oh là là, je l'ai encouragé à pas garder cette pensée-là, mais de vraiment s'en repentir, parce que c'est vraiment odieux, terrible devant Dieu, de blâmer Dieu pour notre péché. Alors, ne vous cachez pas derrière la souveraineté de Dieu pour dire, ah, je je dois attendre qu'il me saisisse, je dois attendre qu'il me fasse bouger. Non, ça c'est retourner la situation à l'envers. Si vous croyez vraiment qu'il est souverain, acceptez sa souveraineté, puis obéissez-le. Ça, c'est vraiment accepter la souveraineté de Dieu. Donc l'apôtre Paul, ici dans Philippiens, quand il dit « j'ai pas atteint la perfection », et c'est lui qui m'a saisi, et c'est pour ça que je suis motivé. Ben, on voit bien qu'il avait bien compris. Dieu est souverain, ça veut dire que je vais obéir. Je suis responsable. Donc, il faut bien ne pas tordre, parce qu'autrement, on joue avec les choses. Dieu n'est pas trompé par quiconque qui retourne la situation à l'envers. Dieu se moque de ceux qui s'enorgueillissent et qui renversent les choses à l'envers, et puis qui blâment Dieu, en fin de compte, pour leurs problèmes. Il nous dit deux choses qu'il veut oublier. Quelles sont les deux choses qu'il veut oublier? Il ne nous dit pas spécifiquement, il nous dit juste oublions ce qui est en arrière. Mais qu'est-ce qui peut être en arrière de nos vies? Qu'est-ce qui peut être en arrière dans nos vies? Je pense que vous le savez autant bien que moi. Il y a les défaites passées, puis il y a peut-être aussi des victoires passées. Puis on doit oublier les deux pour aller de l'avant. Les défaites passées. Proverbe 24, 16 nous dit « Car sept fois le juste tombe et il se relève. » Nos défaites du passé, on s'en relève et on les oublie, on avance. On rechute, on se relève. On oublie. On oublie les défaites passées. Et Dieu a restauré Pierre après qu'il l'a renié trois fois. On se relève. Regardez, tournez dans Acte 15 pour voir l'exemple de Jean-Marc, entre autres, ici. Jean-Marc, on va voir son exemple de défaite passée et comment il n'est pas resté sur sa défaite. Il s'est relevé, ça a pris du temps, mais il est devenu vraiment un fidèle serviteur. Acte 15, 37. On va lire à partir de verset 36. C'est pas juste 142. Page 842, Actes chapitre 15, verset 36. Actes 15, 36. Ça dit « Quelques jours s'écoulèrent ». Là, pour vous mettre dans le contexte, l'apôtre Paul et Barnabas ont fait leur premier voyage missionnaire. Actes 13, 14, ça parle d'avoir été envoyés sous la direction du Saint-Esprit de l'église d'Antioche, être envoyés pour témoigner et pour commencer des églises. Et ensuite, sont revenus ici à Antioche pour donner des comptes rendus. Mais ils sont partis pour les Barnabas, mais il y avait un jeune homme, Jean-Marc, qui était parti avec eux. Jean-Marc, au milieu du voyage, a abandonné. Alors on en parle ici. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Ah. Jean-Marc ne s'était pas montré fidèle. En plein milieu du voyage, il décidait que, il n'aimait pas trop ça, ça devenait long, il avait mal aux jambes de marcher en ville des villages. Ou je ne sais pas, ça ne dit pas. Il est parti. Dans la base des hommes, il n'est plus se taire. Leur voyage. Beaucoup de temps s'est écoulé. Apparemment, ici que Jean-Marc a exprimé, j'aurais dû pas partir, je suis prêt à partir avec vous. Barnabas, Jean-Marc, ok. Paul, est-ce qu'il va encore nous quitter quand on va compter sur lui? Maintenant, Dieu nous donne, par exemple, dans Romains 14, des places que ça nous dit que deux personnes qui aiment autant le Seigneur peuvent avoir des conclusions différentes sur comment appliquer les principes de Dieu. Et les deux doivent être convaincus dans leur cœur de cette application, être fidèles à ce qu'ils voient pour eux-mêmes. Donc, c'est pas nécessairement... Il y a des sujets pour lesquels il n'y a pas un mot définitif de Dieu et qu'on peut avoir des convictions différentes. Ben, voilà un exemple. Barnabas voulait prendre Marc, étant convaincu que ce serait le temps maintenant de le restaurer, que ce serait le... il va être fidèle. Paul opère sur le principe que, pas que quelqu'un ne peut pas être restauré, mais il faut qu'il ait fait ses preuves, il faut qu'il ait rebâti sa crédibilité. Et là, je ne suis pas convaincu qu'il ait refait ses preuves, puis qu'on peut vraiment lui faire confiance, je ne pense pas que c'est le temps de le prendre. Et les deux étaient convaincus, et les deux étaient très convaincus au point de dire, « Bah regarde, Barnabas a dit, regarde, moi je vais le prendre, puis je vais aller par là, et ça ne marchera pas pour nous d'aller ensemble cette fois-ci. » Hey, Dieu s'est servi de cette situation pour faire maintenant deux équipes missionnaires. Donc Dieu n'a pas été attristé dans le contexte. On ne voit pas que c'était mauvais, ni de la part de Barnabas, ni de la part de Paul. Maintenant, est-ce que c'est vrai qu'il faut refaire ses preuves? Oui. Est-ce que Jean-Marc a dû comprendre que, oui, il avait été... infidèle, il avait été un peu traître dans la situation, il n'a pas été quelqu'un sur qui on pouvait compter, de rebâtir sa crédibilité, c'est normal. Est-ce qu'il a dit à M. Paul, franchement, vous n'avez jamais fait chez vous, franchement, vous devrez me pardonner et m'accepter. Non, on ne voit pas du tout cet esprit-là, ça ne donne pas beaucoup de détails, mais l'esprit, on ne le voit pas à travers le contexte, parce qu'il me reste une autre passage à vous dire qui nous donne un peu plus de détails. Mais on voit quelqu'un qui simplement a refait ses preuves avec le temps, humblement. Je vais vous donner un exemple de passage biblique qui nous montre que c'est important de refaire ses preuves, puis c'est normal de garder d'être un peu réticent envers quelqu'un qui s'est déjà démontré infidèle dans le passé. Vous vous rappelez de David, le roi. Mais avant qu'il devienne roi, savez-vous, il avait été pourchassé par le roi Saül. Le roi Saül avait été jaloux de lui. Le roi Saül avait été rejeté de Dieu parce que le roi Saül voulait obéir au degré qu'il voulait. Et donc, pour lui, il obéissait à Dieu, pas complètement, simplement, mais il choisissait s'il obéissait, s'il n'obéissait pas. Et pour Dieu, ça, c'est la désobéissance. Ne jouez pas avec l'idée que vous pouvez choisir ce que vous obéissez à Dieu ou pas. Si vous commencez à choisir les choses auxquelles vous obéissez, puis les choses que vous obéissez pas, Dieu considère ça de la désobéissance pure et simple. Ce n'est pas à nous de choisir ce qu'on va obéir ou pas. Dieu avait rejeté Saül comme roi. Le roi Saül était jaloux parce qu'il voyait que Dieu avait sa main sur David et que David était le prochain roi après lui et Saül voulait le tuer. Maintenant, à deux occasions, David avait eu l'occasion de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait parce que ce n'était pas à lui ni de se venger ou ni de précipiter les choses. C'est Dieu qui va l'enlever autant que Dieu voudra. Donc David, spécifiquement, dans les situations, ce qu'il a montré, il avait coupé le pan de la robe de Saül pour montrer, regarde, j'étais en position, j'aurais pu te tuer. Mais je ne t'ai pas tué. Regarde la preuve, je vais le prendre ta robe. Et hop, c'est vrai, c'est coupé, regarde ça, il l'a dans sa main. Alors le roi Saül dit, oh, désolé, j'aurais dû pas faire ça, pardonne-moi. Voilà. À ce moment-là, Saül s'en va, arrêtant ici de le tuer. Mais est-ce que ça a duré longtemps? Non, il a recommencé pas longtemps après à rechercher David pour encore le tuer. Une deuxième fois ensuite, David et un de ses fidèles soldats est descendu pendant la nuit, lorsque Saül dormait, parce que Saül était toujours à la recherche de David pour le tuer, il a pris sa lance et le jarre là, qui était à côté de son chevet. Ensuite, il s'en va et au matin, il crie de loin, « Hé !» Puis il parle au général, il dit, « Hey, tu protèges mal ton roi, là, regarde ce que j'ai. J'aurais pu tuer ton roi. » Saül dit, « Ah, oh, ouais, David, c'est toi. Ah, ben, je vois encore que tu aurais pu tuer encore. Pardonne-moi. » Alors, Saül lève le camp, il parle. Mais est-ce que ça a duré longtemps? Non, il a recommencé pas longtemps après. Est-ce que David savait que Saül n'était pas quelqu'un qui pouvait faire confiance? Même s'il lui dit, « Pardonne-moi. » OK, David l'avait déjà pardonné dans son cœur, mais c'est pas qu'il va lui faire confiance. Saül a des preuves à faire s'il vraiment s'était repenti, ça va se voir. Saül n'a jamais démontré ses preuves parce que ce n'était pas vraiment fait dans son cœur. Donc, le principe de Dieu, c'est que oui, on peut pardonner aux gens. Est-ce que ça veut dire qu'on va parfois être réticent jusqu'à ce qu'ils rebâtissent leur crédibilité? Oui, on comprend ça. Ce n'est pas la même chose. Et pour ceux d'entre nous, peut-être que quand on chute et puis ensuite on a besoin de rebâtir notre crédibilité, c'est pas à nous de dire « Hey, j'ai demandé pardon, tu devrais me pardonner, puis tout rétablir, puis c'est comme avant. » Non, ça c'est pas vraiment la repentance. La repentance, c'est comme Jean-Marc. Ok, on va simplement rebâtir sa crédibilité et servir. Et on voit, regardez dans 2 Timothée 4, 11, à la fin, l'apôtre Paul dit ceci à propos de Timothée, pas Timothée, à propos de Jean-Marc, 2 Timothée 4, 11. Il dit ceci, Luc seul, là il parle à Timothée, mais il parle à propos de certaines personnes, il dit Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère. Jean-Marc avait rebâti sa crédibilité, humblement, sûrement, au point que même Paul, à la fin de sa vie, dit « Ok, là maintenant je peux compter sur lui. Là moi-même maintenant je suis convaincu et je vais le reprendre à mon service et on va œuvrer le Seigneur ensemble puis je sais de pouvoir compter sur lui. » Alors tout ça pour dire, est-ce que Jean-Marc a oublié ses défaites? Oui, on oublie ça et on rebâtit notre crédibilité, on se remet à servir, on se remet humblement, pas l'exigeant, mais humblement. Et ça, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. On chute, on se relève, humblement, on va rétablir notre crédibilité, mais humblement, on va recommencer à servir. On rechute, on va recommencer, on va repartir, on oublie les défaites passées. On oublie les défaites passées. Mais parfois, on a des victoires passées. Et parfois, on reste un peu sur ces lauriers-là. Non, on les oublie aussi pour, on a d'autres victoires à apprendre à avoir. On a d'autres choses à servir le Seigneur pour. On a d'autres choses à apprendre. On oublie aussi les victoires passées. Et puis là, on va tourner dans 2 Chroniques 26 pour cela. On va voir l'exemple malheureux d'Ozias, le roi, qui avait eu des belles victoires pour servir le Seigneur, des belles victoires de foi. Mais il n'a pas oublié ces victoires-là, il s'est assis un peu dessus, pensant que, ok, là, c'est fait, là, c'est des belles victoires. Il aurait dû les oublier, ces victoires-là, pour dire, j'ai d'autres victoires à avoir, j'ai d'autres choses à apprendre pour le Seigneur. 2 Chroniques 26, c'est page 346, verset 1, on va commencer, on va lire un peu ici et là, à travers ce chapitre. « Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amatsia. Ozias rebâtit Elot, tout au sud, et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, il régna 52 ans à Jérusalem. » Une belle longue vie, un beau long règne. Verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amatsia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu et ça aurait été merveilleux qu'il aurait pu mettre un point là. Malheureusement, l'auteur a dû continuer. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Si on cherche Dieu dépendant d'un autre, cet autre-là ne sera pas toujours sur scène. Et ensuite, là, on va devoir nager par nos propres forces. Est-ce qu'on va vraiment nager par nos propres forces? On va voir dans la vie de Ozias que malheureusement, sa fidélité, il y avait un compte à rebours dessus. Verset 6, la victoire, il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Asdod et construisit les villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal et contre les Maonites. Dieu l'aida. Quelle belle victoire. Tant de prospérité, tant de protection, tant de richesse. Il parle de tout ce qu'il a bâti. Il a bâti des tours à Jérusalem. Il bâti des tours dans le désert. Il creusa des citernes, etc. Verset 11. Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes, etc. Donc Dieu, il donne la victoire à travers tout ça. Mais regardez. Malheureusement, on va arriver au verset 16. Vous là, 16. On va le lire ensemble. Vous voulez lire avec moi? Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et regardez la manière. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Est-ce qu'il n'aimait plus Dieu?
Oui, il aimait Dieu.
Mais il aimait Dieu d'une grosse tête. Il y a une grosse tête. Il y a une grosse tête. Puis il aimait Dieu. Il va offrir lui-même les parfums. Oui, je suis Osias, le roi qui a eu les belles victoires. J'ai mis ma foi en Dieu. Dieu m'a donné beaucoup de victoires. Ah. Mais Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Et soudainement, alors Dieu, la résistance commence. Osias, Osias, tu pues. Ta tête est trop grosse. Qu'est-ce qui t'arrive, Osias? Et regardez, il s'endurcit. Verset 17, le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux. On ne va pas devant le roi pour lui dire « T'as tort, monsieur le roi, facilement, si on tient notre tête. » Mais Azaria se dit « Dieu est en cause, je pars ma tête en disant qu'il en soit, mais je vais lui dire à ce monsieur-là que c'est là, c'est pas à lui. Il est peut-être le roi, mais Dieu n'a pas donné au roi d'Israël de faire les sacrifices. » Dieu l'a donné au sacrificateur de la tribu de Lévi. C'est Dieu qui l'a décidé comme ça. Alors il dit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et encore là, il aurait pu dire, allez, on va éclater la grosse tête, là. On va l'éclater, puis on va sortir. Non, sa tête s'est endurcie encore plus. Hey, il se fâche, la colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. Dieu a châtié là en donnant la lèpre. Et là, il est sorti, puis il a vécu le reste de sa vie à part comme lépreux. Oh, j'aurais aimé ne pas avoir un tel exemple à vous donner, mais Dieu nous l'a donné pour qu'on en tire instruction. Osias, il avait des grandes victoires. Mais au lieu de les oublier pour apprendre d'autres victoires, pour apprendre d'autres leçons, pour servir Dieu, pour apprendre comment marcher humblement devant son Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse jusqu'au dernier jour de notre vie, qu'on aime la miséricorde, qu'on pratique la justice, qu'on aime la miséricorde, et qu'on marche humblement devant notre Dieu. Oublions les victoires passées. Oublions les victoires passées. On a eu un moment où on a fait confiance à Dieu et Dieu nous a répondu, une grande réponse à la prière. Ok, c'est beau, glorifie Dieu, mais avance, oublie celle-là. Fais-en d'autres des prières. On oublie. Alors Paul, il dit on oublie, on retourne dans Philippiens. Paul dit, on oublie ça. Les défaites passées, on oublie ça, les victoires passées. Devant, on va avoir plus de choses à apprendre. Plus de manières à servir. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quel est ce prix? Quel est ce prix? 2 Timothée 4:8 nous dit justement cette couronne de justice. Il dit, j'ai, dans 2 Timothée 4:8, page 909, il dit, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » L'apôtre Paul, le reste de la Bible parle de les récompenses que Dieu veut donner au tribunal de Christ. La louange, à qui sera due la louange, Dieu la donnera. Paul dit, « Je veux entendre. » Bon et bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et voici ce qui t'est confié pour ta fidélité. L'apôtre Paul voulait cela. Il savait que Dieu, comme il est dit dans Hébreux 11:6, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu n'est pas un employeur qui va changer le salaire, là. Il va nous user, puis ensuite profiter de nous. Non, non, Dieu, il vaut la peine de le servir. Il vaut la peine de se convertir à lui. Ça, il l'a dit clairement, on l'a vu ça aller dans les deux dernières semaines. Ensuite, il vaut la peine de le servir, puis de continuer à le servir jusqu'au bout de sa vie. On a toujours plus à faire, on a toujours plus à apprendre. On a un but, on a le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchez-le, servez-le. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous dans cette course-là? Vous êtes-vous converti? Il n'est pas trop tard. Convertissez-vous si ce n'est pas encore fait. Mais ensuite, est-ce que vous courez avec le but d'avancer? Avance. On oublie les victoires, on oublie les défaites. On avance. Parce qu'on a plus à apprendre, plus à servir. On a un prix que Dieu veut nous donner et on veut lui rendre, lui donner la gloire pour sa grâce de nous aider à travers cette course. On va prier. Seigneur Dieu, touche les cœurs, on te prie, Seigneur, que ton esprit puisse toucher le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore comme Seigneur et Sauveur. Tu veux sauver et ensuite tu veux pouvoir aider à grandir. Et je te prie d'encourager ceux qui te connaissent comme Seigneur, encourage-nous de courir et d'oublier les choses du passé pour nous porter vers l'avant, les choses encore que tu veux qu'on apprenne, les choses encore que tu veux qu'on fasse pour toi, pour ce prix de la vocation que tu veux nous remettre, Seigneur Dieu, au tribunal de Christ. Seigneur, on te prie donc que tu touches les cœurs sur le besoin de chacun, en nom de Jésus.